RFI.
RFI, il est 23h à Paris, 22h en temps universel.
24h en France sur RFI.
On fait le tour de l'actualité française, on est ensemble pour les 30 prochaines minutes.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, le Premier ministre face aux élus locaux en colère aujourd'hui. Les maires de France s'opposent aux économies dans le cadre du projet de loi finances du gouvernement. Reportage à suivre. La classe politique française réagit alors que la Cour pénale internationale a émis aujourd'hui des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien et son ex-ministre de la Défense et le chef de la branche armée du Hamas. On y reviendra. Face au mouvement social des agriculteurs, la ministre de l'Agriculture promet des annonces dans les prochains jours pour des mesures de simplification. La coordination rurale qui mène des actions dans le sud-ouest du pays se dit prête à discuter. Et puis le procès Samuel Paty se poursuit. Naïm Boudaoud, accusé de complicité d'assassinat terroriste, était interrogé par la cour d'assises aujourd'hui.
Radio France Internationale.
Les élus locaux vont debout face à Michel Barnier. Ce jeudi, le Premier ministre a clôturé le congrès de l'AMF en y prononçant un discours. Il a tenté d'apaiser la colère des élus locaux. Il s'oppose aux économies que veut leur imposer le gouvernement dans le cadre de son projet de loi finances. Un exercice d'équilibriste pour Matignon et une opération d'apaisement pas tout à fait réussie pour le chef du gouvernement, Charlotte Urien-Tomaca.
Certains maires l'attendaient de pied ferme. Dans le contexte d'économie budgétaire et de fortes tensions avec les élus locaux, la visite de Michel Barnier relevait plus de l'opération séduction que de la visite de courtoisie. Le Premier ministre l'a rappelé à plusieurs reprises, il ne sait pas combien de temps il restera à Matignon et le projet de loi de finances de 2025 a été réalisé dans un cadre inédit. Michel Barnier.
Jamais un Premier ministre depuis 65 ans n'a eu 15 jours à peine pour préparer le budget. Je dis simplement la vérité. Et donc ce budget, il n'est pas parfait. Il comporte parfois des injustices ou des points qu'il faut revoir.
S'il a tenté de rassurer les édiles.
Vous avez dit avec beaucoup de force la blessure qui a été celle de tous les élus locaux d'entendre dire que si la France était en déficit, c'était leur faute. Vous ne m'entendrez pas dire ça, parce que je ne le pense pas.
Il n'est pas revenu sur les économies qu'il leur demande de réaliser. Pour le président de l'AMF, David Lisnard, le compte n'y est pas vraiment.
La suite dépendra de ce qui va sortir de la discussion budgétaire au Sénat. Je comprends que le Premier ministre n'ait pas voulu entraver la discussion au Sénat. Et je pense qu'il marche sur des œufs.
Mais Michel Barnier s'est engagé à venir faire le bilan des mesures proposées en 2025 au prochain congrès de l'AMF s'il est toujours Premier ministre d'ici là.
Charlotte Urien-Tomaca. L'actualité internationale rattrape souvent l'actualité française. Ce jeudi, la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre notamment le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Victorien Villaume a interrogé la classe politique française.
S'il y a bien un parti qui n'hésite pas à saluer cette décision, c'est la France Insoumise, le parti de gauche radicale, qui ne rate jamais une occasion de qualifier Benjamin Netanyahou de criminel de guerre. Adrien Clouet, député LFI.
Et on ne peut que se réjouir du fait que le droit international commence à s'appliquer à tout le monde et qu'un génocidaire, quelle que soit sa nationalité, son origine, sa couleur de peau, puisse être déféré devant la CPI.
De façon globale à gauche, on approuve ce mandat d'arrêt, même si l'approche des socialistes se veut plus timide. Le patron du PS, Olivier Faure, se contente de retweeter le vice-président de la Commission européenne qui acte la décision de la CPI. Un sénateur socialiste dit ne pas commenter de décision de justice. Embarras également dans le camp présidentiel. À une exception près, la députée macroniste des Français de l'étranger, Caroline Yadan.
C'est une décision purement politique, c'est une décision qui marque définitivement la faillite de nos institutions judiciaires internationales qui sont omnubilées par les condamnations Israël.
Une position toute proche de celle du Premier ministre israélien qui dénonce de son côté un nouveau procès Dreyfus.
Victorien Vuillaume. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été interpellé à Alger dans la soirée du samedi 16 novembre 2024 à son arrivée de Paris. Des agents civils l'ont arrêté du côté de Dar El Beida, à l'est de la capitale, après avoir quitté l'aéroport international Houari Boumediene. Les motifs de l'interpellation non confirmés officiellement demeurent inconnus. Il serait lié aux récentes déclarations du romancier sur l'appartenance de certaines villes algériennes comme Maskra et Oran au Maroc. Boualem Sansal risque des peines lourdes pour, entre autres, atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du pays et incitation à la division du pays. Quatrième jour de mobilisation pour les agriculteurs français. Depuis hier, le deuxième syndicat agricole, la coordination rurale, mène des actions dans le sud-ouest. Mais après près de 24 heures de blocage du port de commerce de Bordeaux, les tracteurs devraient lever le camp demain matin à 8 heures. Karine Leduc, coprésidente de la coordination rurale Lot-et-Garonne, se dit prête à se mettre au travail avec le gouvernement autour de deux priorités.
Nous avons eu pour principe de demander des choses qui tiennent de l'ordre du réglementaire français. Donc des baisses de charges, c'est sur simple décision du gouvernement, du législateur. Et le deuxième point, on demande l'alignement de la réglementation française avec la réglementation européenne, les surtranspositions françaises et les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs et qui fait ce jeu de concurrence déloyale, tue à petit feu l'ensemble des producteurs, conduit à la déproduction. Et c'est une vaste hypocrisie finalement, puisque tous les produits qui sont faits par ailleurs en dehors de la France arrivent dans les assiettes de tous les Français. Donc cette hypocrisie-là, il faut qu'elle s'arrête. Toutes les solutions sont entre les mains des politiques qui disent tous les jours nous soutenir. Donc ils ont toutes les cartes en main pour pouvoir procéder immédiatement à des solutions.
Des propos recueillis par Nicolas Feldman. Le procès Paty continue. Aujourd'hui, c'est Naïm Boudaoud, accusé de complicité d'assassinat terroriste, qui était interrogé ce jeudi par la cour d'assises. 18 ans au moment de l'assassinat du professeur d'histoire, il est soupçonné d'avoir aidé Anzorov à se fournir une arme la veille de la mort de Samuel Paty, mais aussi de l'avoir conduit sur les lieux des faits le jour J. Le récit d'Amélie Beaucourt.
C'est avec des messages menaçants que Naïm Boudaoud se réveille ce 16 octobre 2020. « Je vais t'étrangler », lui écrit Abdullah Kanzorov, énervé de la grasse matinée de son ami alors qu'il lui avait demandé de le déposer en voiture à Rouen pour récupérer de l'argent laissé à un autre accusé. Naïm rejoint son ami en fin de matinée et prend la direction de Rouen. Mais changement d'itinéraire, Kanzorov dit vouloir acheter un pistolet à billes. « Il me dit qu'il a un problème avec des Africains », se remémore-t-il, et me demande de le déposer ensuite à Mantes-la-Jolie, une ville du département voisin. Mais Naïm Boudaoud a des impératifs ce jour-là. Il envoie un message à sa mère, lui demande de prétexter un problème pour qu'il puisse se défiler d'Anzorov, mais son plan échoue. La cour est surprise. Anzorov vous menace, vous fait perdre votre temps, semble vous embarquer dans une embrouille qui ne vous concerne pas. Pourquoi accepter tout de même de le dépanner ? J'ai du mal à m'affirmer, justifie le jeune homme. J'ai toujours eu une faible personnalité. C'est finalement une adresse à Conflans-Sainte-Honorine qu'entrera Anzorov dans le GPS. Mais Boudaoud dit ne pas s'en rendre compte. Il a autre chose en tête à ce moment-là. Rejoindre au plus vite sa copine qui l'attend. Ce qu'il fera juste après avoir déposé son ami à une intersection à sa demande. Il avait une dégaine de cambrioleur avec son sac et ses vêtements noirs, analyse-t-il après coup. Ce n'est que tard le soir qu'il apprendra son acte sous le choc.
Le récit d'Amélie Beaucourt.
24 heures en France.
Où en est l'antisémitisme en France en 2024 ? Depuis 2014, l'Institut Ipsos mène des enquêtes d'opinion très poussées. Ce qui ressort de la dernière en date, c'est que les stéréotypes anti-juifs perdurent et sont même en augmentation depuis 2020. La guerre à Gaza a notamment des conséquences sur l'antisémitisme. Brice Teinturier est directeur général d'Ipsos.
C'est ce qui se passe à Gaza, mais c'est surtout la lecture qu'en fait la France insoumise. Puisqu'encore une fois, et c'est très important, l'évolution majeure, elle se fait auprès des sympathisants de la France insoumise qui systématiquement, par exemple, relativisent la poussée de l'antisémitisme en France, relativisent les événements du 7 octobre et au contraire, partagent à un niveau beaucoup plus élevé que le reste de la population les stéréotypes anti-juifs, y compris, je parle bien de stéréotypes anti-juifs, par exemple avec cette idée que la très grande majorité des juifs français, on parle des juifs et on parle des français, partagerait les positions, y compris les plus extrêmes ou les plus condamnables, dans le conflit à Gaza. Donc c'est aussi un travail politique fait par la France insoumise qui imprègne ses sympathisants et qui renforce du coup les stéréotypes anti-juifs plus généraux qu'on connaît bien depuis maintenant de nombreuses années.
Brice Tenturier, directeur général d'Ipsos. C'est un record de saisie de drogue. Près de 45 tonnes de cocaïne ont été saisies sur les 10 premiers mois de l'année 2024. C'est plus du double de la quantité saisie en 2023. Le nouveau directeur de la police nationale a dressé un état des lieux du narcotrafic devant une commission au Sénat. Les précisions de Marie Cazadebé.
Un marché français en pleine expansion, avec une forte demande et une offre abondante. De cocaïne en Amérique latine, d'héroïne en Afghanistan, de résine de cannabis au Maroc et de drogue de synthèse en Europe. Voilà pour le tableau dressé par Louis Laugier, qui précise qu'en France, la hausse du trafic de cocaïne est particulièrement significative. Les saisies ont été multipliées par 5 en 10 ans, pour atteindre près de 45 tonnes en 2024, soit le double de l'année dernière. Une hausse également liée à celle des opérations policière, selon le patron de la police française. Autre constat, le trafic de stupéfiants a tendance à toucher les grandes agglomérations comme les villes moyennes, à mobiliser en majorité des réseaux français mais aussi albanais et nigérians et à impliquer des trafiquants de plus en plus jeunes avec une banalisation du recours aux armes qui explique le nombre de victimes collatérales. Ce tableau tend à ressembler à celui de la majorité des pays développés, notamment en Europe où en 2024, la moitié des réseaux criminels les plus menaçants étaient impliqués dans le trafic de drogue.
Marie Cazadebé, pour finir ce journal, l'avis aux dessinateurs de presse du monde entier. L'hebdomadaire français Charlie Hebdo lance un concours international de caricatures de Dieu près de 10 ans après l'attentat terroriste. Le journal satirique entend dénoncer l'emprise de toutes les religions sur les sociétés. Sophie Torlotin.
Athée, Charlie Hebdo l'est depuis sa création dans les années 60 et athée, il entend bien le rester envers et contre tout. Ce concours international de caricatures porte d'ailleurs le hashtag « Rire de Dieu ». Le journal satirique n'entend pas renoncer à se moquer des religions, de toutes les religions, comme l'explique le rédacteur en chef Gérard Biard.
Rire de Dieu, c'est rire d'une idée et d'une idéologie qui pourrit la vie à des millions de gens à travers le monde et contre lequel lutte également des millions de gens à travers le monde. On n'a pas besoin d'être athée pour se moquer du pouvoir de Dieu. Le blasphème, c'est pas attaquer des croyants. Le blasphème, c'est attaquer le pouvoir de Dieu et de ceux qui prétendent le représenter, si tant est qu'il existe. Des athées, il y en a partout dans le monde. Il y en a en Afrique comme ailleurs, il y en a dans les pays musulmans comme ailleurs. Simplement, il y a beaucoup de pays dans lesquels ils ne peuvent même pas le dire.
Les dessinateurs ont jusqu'au 15 décembre pour soumettre leurs caricatures. Les meilleurs dessins seront publiés dans l'édition du 7 janvier 2025, date du 10e anniversaire de l'attentat terroriste, au cours duquel 12 personnes avaient été tuées.
RFI 23h12 à Paris, 24h en France. Continue, restez avec nous.
24h en France. Juliette Pietraszewski.
Le procès des viols de Mazan se poursuit lui aussi. Le début des réquisitions du parquet, ce sera lundi prochain. 50 hommes sont ainsi jugés à Avignon, accusés d'avoir violé Gisèle Pellicot, droguée à son insu par son ex-mari avec des anxiolytiques pendant près de 10 ans. Et droguer une personne sans qu'elle ne s'en rende compte à des fins criminelles et délictuelles, c'est ce qu'on appelle la soumission chimique. Une pratique loin d'être nouvelle, mais davantage médiatisée avec ce procès Mazan. Pourtant, elle reste largement méconnue des professionnels de la santé. Des formations leur sont donc proposées, comme à l'Assemblée nationale, pour les aider à repérer et accompagner au mieux les victimes, où s'est rendu donc Baptiste Coulon à l'Assemblée nationale.
Ils sont médecins, sages-femmes, urgentistes et pour beaucoup toujours en études. Ils arrivent avec leurs interrogations.
Si on a une suspicion de soumission chimique, est-ce qu'il vaut mieux pas que dès les urgences, en fait, on fasse des prélèvements sanguins et urinaires avant de les adresser le lendemain matin ?
Pour leur répondre, des professionnels de santé spécialisés dans la prise en charge des victimes de soumission chimique.
Il faudrait former en fait, en tout cas, des professionnels, des infirmiers dans votre service qui soient en mesure de s'assurer que ce qui a été prélevé, ça a été prélevé correctement.
Au dernier rang, Flavie griffonne quelques notes sur son carnet. En 7e année de médecine générale à Paris, elle n'a jamais étudié la soumission chimique.
On nous parle beaucoup des violences conjugales, de cycles de violence, mais c'est vrai que la soumission chimique, pas du tout entendu parler dans le cadre de nos études en tout cas.
La soumission chimique, un impensé des manuels scolaires, si bien que Margot, étudiante sage-femme, l'assure, elle aurait bien du mal à déceler les symptômes d'une victime et à la prendre en charge.
J'en suis clairement pas capable et c'est pour ça aussi aussi que j'ai choisi de venir pour me former à ça parce que j'étais pas du tout à l'aise avec la question et c'est essentiel justement pour notre formation pour qu'on puisse après voir des femmes dans n'importe quel cabinet, dans n'importe quel service et pouvoir les aider. Oui.
Aider, conseiller la victime, l'orienter vers le meilleur interlocuteur, c'est l'objectif de cette formation. L'intérêt est aussi d'éviter les errances médicales identifiées au procès Mazan. Gisèle Pellico avait alerté ses médecins évoquant des douleurs gynécologiques, des pertes de mémoire. Aucun n'avait fait de lien avec la soumission chimique. Pour la gynécologue Rada Hatem, fondatrice de la Maison des Femmes, ce sont donc de nouveaux réflexes qu'il faut acquérir.
À n'importe quel médecin à qui une personne dirait « je me sens bizarre, je m'endors facilement », au lieu de dire « elle est folle », se dire « ah, et puis peut-être aussi qu'elle prend des substances malgré elle ». Toujours interroger le patient qui peut-être vit des choses dont il ne va pas vous parler spontanément, mais si vous posez la question, il va vous le dire.
L'autre question posée par le procès Mazan est de savoir comment l'ex-mari de Gisèle Pellico s'est procuré autant d'anxiolytiques sans alerter son pharmacien. Pour Rada Hatem, il faut engager une réflexion autour du médicament.
Vous pouvez, avec une ordonnance, aller dans 4 pharmacies ou bien aller voir 3 médecins différents en disant « j'ai du mal à dormir ». Chaque médecin, en toute bonne foi, va vous prescrire une boîte ou 3 boîtes de quelque chose. Il faut réduire les stocks. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne contrôle pas trop ce que les gens achètent. C'est pour ça qu'il faut en parler, il faut vulgariser.
Après une journée d'écoute attentive, Flavie confirme l'intérêt de cette formation.
C'est intéressant de savoir comment ça fonctionne, comment les patientes sont prises en charge. Ça devient plus concret, en fait.
Et promet de partager ce qu'elle a appris avec d'autres étudiants.
Reportage de Baptiste Coulon.
La culture.
Notre invité culture de ce soir, c'est le plasticien sénégalais Arébenor Bassen. Pour la 2e Biennale de Dakar, l'artiste a cette année la chance d'être à la fois présent au in et au off. Ce peintre érudit a étudié pendant de longues années sur les bancs de la fac l'histoire et les civilisations africaines. Il a commencé par exposer dans une galerie belge avant de percer dans son pays. Comme nous sommes à la radio, on va essayer de décrire ses œuvres. Ses toiles sont à la fois colorées, semi-abstraites, faites de mouvements et de couleurs. Elles ont toujours un lien avec l'histoire du continent africain, tout comme les matériaux qu'il utilise. C'est une interview de Juliette Dubois.
Je suis avec Arébenor Bassen, un peintre sénégalais. Arébenor, bonjour. Vous êtes peintre, mais j'ai lu que vous aviez fait de longues études en langues, civilisations et histoires africaines. Et vous dites vous considérer comme un historien. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est ça. En fait, moi, je me dis que tout est lié à l'histoire. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, si on veut le comprendre réellement, il faut se référer à l'histoire. Je n'hésite pas, dans mon expression artistique, à aller fouiner dans l'histoire de mon peuple, l'histoire de l'Afrique. J'ai l'habitude de me référer à ma lecture, j'allais dire, ce que je pourrais appeler mes livres de chevet. Donc, les œuvres de Charente Diop en premier, de Ivan Van Sertima, de Rinoko Rachidi.
Est-ce que pour vous, comme pour certains de ces penseurs, l'Afrique a été un peu laissée de côté dans l'écriture de l'histoire et la manière dont on pense les civilisations, entre guillemets ?
Ah, bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'on ne doit pas trop se victimiser. Moi, j'aime bien les pages glorieuses de l'Afrique. J'aime bien évoquer cela. Quand on parle de l'histoire de l'Afrique, on a souvent tendance à parler de l'esclavage par-ci, de la colonisation par-là, en oubliant ce qui me paraît être les pages les plus glorieuses de l'Afrique, notamment l'Andalousie. Nous avons assez d'éléments qui sont vraiment heureux depuis l'Égypte antique, ou bien même avant l'Égypte antique, la Nubie.
Et cette histoire lumineuse de l'Afrique, comment est-ce que vous la retranscrivez sur vos œuvres ?
Si vous regardez cette toile-là qui est devant moi, on a l'impression d'avoir, tu vois, c'est comme un personnage qui est suggéré, qui tient comme de l'or à sa main, tu vois. Donc ceci rappelle un peu Kankamoussa, qui est considéré par des chercheurs américains comme étant l'homme le plus riche de tous les temps. Des choses qu'on devait apprendre à nos enfants, des histoires qui devaient être enseignées à l'école.
Et vous utilisez aussi des matières, des textures typiquement africaines, comme ouais. Le sable ou la gomme arabique, c'est ça ? Ça aussi, pour vous, c'est important ?
Vous savez, la gomme arabique, déjà, elle est chargée d'histoire. Les Européens, ils venaient chercher la gomme arabique, et même pour les productions artistiques. Des premiers peintres dans les compositions de peinture. Il y avait justement la présence de la gomme arabique. Elle peut jouer la fonction de fixatif de la couleur, mais également ça rendait un peu brillant la couleur, mais également ça contribuait à bien tendre la toile.
Qu'est-ce que vous espérez retirer de cette deuxième participation à la Biennale de Dakar, Arébé Nord?
Le plus important à la Biennale, ce sont les premiers jours. Et donc, le commencement, c'est comme si le commencement, c'était la fin. Oui, parce que à la première semaine, le grand public est là, mais après, les gens viennent à compte-gouttes. Je m'attends à ce que le public réponde, et le public a répondu. Les collectionneurs également, ils sont venus. Donc voilà, je ne me plains pas. C'est tout ce qu'on demande, hein, d'avoir cette visibilité-là.
Merci beaucoup, Arébé Norbassène.
Une interview enregistrée dans la galerie Célébéionne de Dakar. RFI 18h19 à Fort-de-France.
Le journal de l'Outre-mer.
Présenté par Alex Léveillé. Bonsoir Alex. À la une de votre journal en Martinique, la trésorière de l'association AIRPRAC a notamment été visée par des interpellations.
Bonsoir. Tôt ce matin en Martinique, les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs interpellations à domicile. Deux personnes présentes lors de l'intrusion à la résidence préfectorale le lundi 11 novembre 2024, lors de la visite du ministre des Outre-mer, ont été placées en garde à vue. Une troisième personne visée, absente de son domicile, s'est présentée au commissariat. Il s'agit de Gladys Roger, trésorière de l'association AIRPRAC. Claude Gracien de Martinique, la première.
Selon nos informations, deux d'entre elles ont été interpellées par la police tôt ce matin, dont le garde du corps de Rodrigue Petitot. L'une des porte-paroles du AIRPRAC, Gladys Roger, fait aussi partie des personnes interrogées, mais elle s'est elle-même déplacée au commissariat de Fort-de-France dans la matinée. Des avocats sont sur place pour les assister lors des auditions. À l'extérieur, en fin de matinée, une cinquantaine de personnes s'étaient rassemblées devant le commissariat en signe de soutien aux militants. Il s'agit évidemment, à travers les procédures d'aujourd'hui, de tenter de préciser les rôles que chacun aurait eu lors des événements qui ont mené à la présence de membres du AIRPRAC dans l'enceinte de la résidence préfectorale et à l'altercation qui s'en est suivie avec le préfet, ainsi qu'avec des représentants des forces de l'ordre. Lors de la comparution immédiate de Rodrigue Petit vendredi dernier pour violation de domicile, menace, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, les avocats avaient dénoncé une enquête menée de façon expresse et un dossier incomplet. Rodrigue Petitot avait été placé sous contrôle judiciaire en renforcé et son procès renvoyé au 21 janvier de l'année prochaine.
Claude Gracien de Martinique, la première. Connaître le taux de pesticides près de chez vous, c'est désormais possible grâce à Adonis, une carte interactive développée par l'association Solagro. En place dans l'Hexagone, elle s'étend désormais aux Antilles, Guyane, à Mayotte et à La Réunion. Et on peut suivre commune par commune l'utilisation des pesticides. Julien Babel de Guadeloupe, la première.
Adonis se penche par exemple sur la canne à sucre et la banane. La canne, c'est 30% de la surface agricole cultivée des territoires ultramarins étudiés, dont plus de la moitié se trouve à La Réunion, plus d'un tiers en Guadeloupe. Adonis montre un fort recours aux herbicides, 53% de l'ensemble des pesticides étudiés outre-mer. Concernant la banane, Guadeloupe et Martinique ont subi l'épandage du chlordécone pendant 20 ans. Les pratiques ont évolué et des améliorations sont visibles. En Guadeloupe, les indicateurs de fréquence de traitement phytosanitaire ont baissé de plus de la moitié depuis 2012. En Martinique, en revanche, les indicateurs de fréquence restent élevés. Une vraie carte de France des pesticides et ça plaît. Notez plus de 400 demandes de réutilisation des données brutes pour ouvrir des champs de recherche ou croiser des informations avec des données sanitaires et environnementales. À Mayotte et en Guyane, les systèmes agricoles, agroforestiers et vivriers prédominent. Ils permettent un usage réduit des pesticides. À La Réunion, 40% du territoire est classé en cœur de parc national. L'agroforesterie y apparaît comme une solution. Elle permet la diversité, l'absence de recours aux intrants et une gestion de l'espace à long terme favorable à sa restauration biologique.
Julien Babel de Guadeloupe, la première. Les chauffeurs de taxi de l'île de La Réunion, eux, mobilisés tôt ce matin sur l'épineux dossier du transport sanitaire. Actuellement, ils sont 500 à réaliser des transports sanitaires sur l'île, une activité qui fait l'objet d'une convention nationale entre la Sécurité sociale et les représentants des artisans taxis. Elle est signée tous les 5 ans, mais pour la première fois, il y a des accords, notamment sur la tarification des courses effectuées. Erwan Poney de Réunion, la première.
1 million de courses à l'année pour 80 000 patients, c'est ce qui est réalisé par quelques 500 taxis à La Réunion, 500 licences liées à cette convention entre les taxiteurs et la sécurité sociale dans l'organisation du transport sanitaire. Un domaine dans lequel la sécurité sociale veut faire des économies, mais pour Grégory Préport, président de la Fédération des artisans taxis, impossible de faire plus d'efforts sur la tarification.
Jusqu'à présent, la consigne avait été d'accorder à la sécurité sociale une remise de près de 25%. Tout ça dans le but, justement, d'économiser sur ce fameux budget et d'être, nous aussi, en accord avec, je dirais, les directives de la Sécurité sociale nationale. Aujourd'hui, on va nous demander de faire une remise encore plus importante, jusqu'à près de 40%. Aujourd'hui, nous demander de travailler de cette manière-là, c'est absolument pas tolérable, c'est absolument pas raisonnable.
500 licences, cela représente un millier de chauffeurs dans le département. Pour la Fédération des artisans taxis, les exigences de la Sécurité sociale risquent de déstabiliser tout un secteur d'activité.
Erwan Poney de Réunion La Première, et c'est la fin de cette édition. Excellente soirée à tous.
Bonne soirée Alex, merci.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Présenté par Caroline Paré. Aujourd'hui, on s'intéresse à la BPCO. C'est une maladie respiratoire chronique qui se traduit notamment par une inflammation et une obstruction permanente et progressive des bronches. On en parle avec le professeur Bruno Crestani, pneumologue.
Professeur Bruno Crestani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de pneumologie à l'hôpital Bichat-Claude Bernard à PHP à Paris. Quelles expositions ou habitudes du quotidien favorisent le risque de BPCO, cette maladie respiratoire chronique ?
Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, hein. Le risque majeur, il est lié au tabac. Fumer du tabac, c'est vraiment le facteur de risque principal en France et dans le monde pour acquérir une BPCO. Alors, il y a d'autres risques, bien sûr. On peut avoir une BPCO en n'ayant jamais fumé, ce qui est injuste. Alors, dans quel cas ? Eh bien, par exemple, lorsqu'on est exposé sur son lieu de travail. Si on est, par exemple, éleveur et qu'on travaille dans une enceinte fermée, on peut respirer des particules qui vont entraîner une inflammation du poumon et donc une BPCO. Mais également, l'autre chose, c'est la pollution domestique. Lorsque je suis à la maison, dans une enceinte fermée, que je fais par exemple brûler du bois, de la biomasse, la fumée, si elle ne s'évacue pas, va entraîner une BPCO potentiellement. Mais je répète, le facteur principal, c'est le tabac. Il y a un petit rôle aussi pour la pollution atmosphérique extérieure, mais malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose soi-même.
Merci professeur Crestani. Vous êtes aussi président de la Fondation du Souffle. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on va parler du tatouage, pratique esthétique culturelle associée à de nombreux préjugés, à des fausses croyances. On va parler technique et soins, contre-indications, complications, à qui s'adresser pour se faire tatouer ou retirer un tatouage. Tatouage, détatouage sans complications, c'est à 9h10, 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI. Pure Radio.
Un conseil santé présenté par Caroline Paré. 24 heures en France, c'est fini. Merci à Valentin Vanner à la technique. Merci à Mouna Elbana et François Ballarin à la rédaction en chef. Les journaux de la nuit seront présentés par Pierre Boudias. Et dans un instant, c'est votre édition Afrique avec Zéphirin Quadio.
Le rendez-vous de Wall Street.
La bourse avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones bondit de 462 points et revient à 43 870, mais le Nasdaq ne grappille que 6 petits points pour finir à 18 972. Les résultats trimestriels de Nvidia, très attendus, sont tombés et se révèlent légèrement meilleurs que prévus par les analystes. Quelques spéculateurs sont néanmoins déçus, dans la mesure où les prévisions de chiffre d'affaires du leader des processeurs pour intelligence artificielle reflètent la croissance relative la plus modeste depuis 7 trimestres. Le cours de Nvidia gagne moins d'1%. La grosse déception vient d'Alphabet. La maison mère de Google voit son cours chuter de près de 5%. Le département de la justice à Washington demande au juge qui a conclu que Google abusait de sa position dominante que le géant du numérique se sépare de Chrome, son navigateur Internet. Voilà qui ferait éclater, au moins en partie, l'écosystème de Google. Chrome permet à Google de maintenir sa position dominante sur la recherche d'informations sur Internet. À noter aussi le recul d'Amazon. Le géant du commerce en ligne va probablement faire l'objet d'une enquête en Europe sur la manière dont il favoriserait ses propres produits sur sa plateforme de commerce en ligne. L'euro accélère sa baisse et termine à 1,0482. L'once d'or grimpe pour la quatrième séance consécutive et dépasse 2664 $, alors que le bitcoin s'approche de 100 000 $. Le cours du baril de pétrole américain s'offre plus de 2% et dépasse 70 $, tout cela en réaction aux échanges de missiles entre la Russie et l'Ukraine. L'indice Dow Jones aujourd'hui bondit d'1,1%, le Nasdaq arrache moins de 0,1%.
RFI, la sélection du mois.
Majrou Sultan Puri et Ordi Bourman. Clou.
RFI Musique.